Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, chapitre 3, suite. Le mysticisme complet est en effet celui des grands mystiques chrétiens. Laissons de côté pour le moment leur christianisme et considérons chez eux la forme sans la matière. Il n'est pas douteux que la plupart aient passé par des états qui ressemblent aux divers points d'aboutissement du mysticisme antique. Mais ils n'ont fait qu'y passer, se ramassant sur eux-mêmes pour se tendre dans un tout nouvel effort. Ils ont rompu une digue. Un immense courant de vie les a ressaisis. De leur vitalité accrue, s'est dégagée une énergie, une audace, une puissance de conception et de réalisation extraordinaire. Qu'on pense à ce qu'accomplir dans le domaine de l'action un saint Paul, une sainte Thérèse, une sainte Catherine de Sienne, un saint François, une Jeanne d'Arc et tant d'autres. Presque toutes ces activités surabondantes se sont employées à la propagation du christianisme. Il y a des exceptions, cependant, et le cas de Jeanne d'Arc suffirait à montrer que la forme est séparable de la matière. Quand on prend ainsi, à son terme, l'évolution intérieure des grands mystiques, on se demande comment ils ont pu être assimilés à des malades. Certes, nous vivons dans un état d'équilibre instable, et la santé moyenne de l'esprit, comme d'ailleurs celle du corps, est chose malaisée à définir. Il y a pourtant une santé intellectuelle solidement assise, exceptionnelle, qui se reconnaît sans peine. Elle se manifeste par le goût de l'action, la faculté de s'adapter et de se réadapter aux circonstances, la fermeté jointe à la souplesse, le discernement prophétique du possible et de l'impossible, un esprit de simplicité qui triomphe des complications, enfin un bon sens supérieur. N'est-ce pas précisément ce qu'on trouve chez les mystiques dont nous parlons? Et ne pourrait-il pas servir à la définition même de la robustesse intellectuelle? Si l'on en a jugé autrement, c'est à cause des états anormaux qui préludent souvent chez eux à la transformation définitive. Ils parlent de leurs visions, de leurs extases, de leurs ravissements. Ce sont là des phénomènes qui se produisent aussi bien chez des malades et qui sont constitutifs de leur maladie. Un important ouvrage apparu récemment sur l'extase, envisagé comme une manifestation psychasthénique. Mais il y a des états morbides qui sont des imitations d'états sains. Ceux-ci n'en sont pas moins sains et les autres morbides. Un fou se croira empereur. À ses gestes, à ses paroles et à ses actes, il donnera une allure systématiquement napoléonienne. Et ce sera justement sa folie. En rejaillira-t-il quelque chose sur Napoléon? On pourra aussi bien parodier le mysticisme et il y aura une folie mystique. Suivra-t-il de là que le mysticisme soit folie? Toutefois, il est incontestable qu'extase, vision, ravissement sont des états anormaux et qu'il est difficile de distinguer entre l'anormal et le morbide. Telle a d'ailleurs été l'opinion des grands mystiques eux-mêmes. Ils ont été les premiers à mettre leurs disciples en garde contre les visions qui pouvaient être purement hallucinatoires. Et à leurs propres visions, quand ils en avaient, ils n'ont généralement attaché qu'une importance secondaire. C'était des incidents de la route. Il avait fallu les dépasser, laisser aussi bien derrière soi ravissement et extase pour atteindre le terme, qui était l'identification de la volonté humaine avec la volonté divine. La vérité est que ces états anormaux, leur ressemblance et parfois sans doute aussi leur participation à des états morbides, se comprendront sans peine si l'on pense au bouleversement qu'est le passage du statique au dynamique, du clos à l'ouvert, de la vie habituelle à la vie mystique. Quand les profondeurs obscures de l'âme sont remuées, ce qui monte à la surface et arrive à la conscience y prend, si l'intensité est suffisante, la forme d'une image ou d'une émotion. L'image est le plus souvent hallucination pure, comme l'émotion n'est qu'agitation vaine. Mais l'une et l'autre peuvent exprimer que le bouleversement est un réarrangement systématique en vue d'un équilibre supérieur. L'image est alors symbolique de ce qui se prépare, et l'émotion est une concentration de l'âme dans l'attente d'une transformation. Ce dernier cas est celui du mysticisme, mais il peut participer de l'autre. Ce qui est simplement anormal peut se doubler de ce qui est nettement morbide. À déranger les rapports habituels entre le conscient et l'inconscient, on court un risque. Il ne faut donc pas s'étonner si des troubles nerveux accompagnent parfois le mysticisme. On en rencontre aussi bien dans d'autres formes du génie, notamment chez des musiciens. Il n'y faut voir que des accidents. Ceux-là ne sont pas plus de la mystique que ceux-ci ne sont de la musique. Ébranlé dans ses profondeurs par le courant qui l'entraînera, l'âme cesse de tourner sur elle-même, échappant un instant à la loi qui veut que l'espèce et l'individu se conditionnent l'un l'autre circulairement. Elle s'arrête comme si elle écoutait une voix qui l'appelle. Puis, elle se laisse porter droit en avant. Elle ne perçoit pas directement la force qui la meut, mais elle en sent l'indéfinissable présence, ou la devine à travers une vision symbolique. Vient alors une immensité de joie, extase où elle s'absorbe, ou ravissement qu'elle subit. Dieu est là et elle est en lui. Plus de mystère. Les problèmes s'évanouissent, les obscurités se dissipent. C'est une illumination. Mais pour combien de temps? Une imperceptible inquiétude qui planait sur l'extase descend et s'attache à elle comme son ombre. Elle suffirait déjà, même sans les états qui vont suivre, à distinguer le mysticisme vrai, complet, de ce qui en fut jadis l'imitation anticipée ou la préparation. Elle montre, en effet, que l'âme du grand mystique ne s'arrête pas à l'extase comme au terme d'un voyage. C'est bien le repos, si l'on veut, mais comme à une station où la machine resterait sous pression, le mouvement se continuant en ébranlement sur place dans l'attente d'un nouveau bond en avant. Disons plus précisément, l'union avec Dieu a beau être étroite, elle ne serait définitive que si elle était totale. Plus de distance, sans doute, entre la pensée et l'objet de la pensée, puisque les problèmes sont tombés qui mesuraient et même constituaient l'écart. Plus de séparation radicale entre ce qui aime et ce qui est aimé. Dieu est présent et la joie est sans borne. Mais si l'âme s'absorbe en Dieu par la pensée et par le sentiment, quelque chose d'elle reste en dehors. C'est la volonté. Son action, si elle agissait, procéderait simplement d'elle. Sa vie n'est donc pas encore divine. Elle le sait. Vaguement, elle s'en inquiète. Et cette agitation dans le repos est caractéristique de ce que nous appelons le mysticisme complet. Elle exprime que l'élan avait été pris pour aller plus loin, que l'extase intéresse bien la faculté de voir et de s'émouvoir, mais qu'il y a aussi le vouloir, et qu'il faudrait le replacer lui-même en Dieu. Quand ce sentiment a grandi, au point d'occuper toute la place, l'extase est tombée. L'âme se retrouve seule et parfois se désole. Habituée pour un temps à l'éblouissante lumière, elle ne distingue plus rien dans l'ombre. Elle ne se rend pas compte du travail profond qui s'accomplit obscurément en elle. Elle sent qu'elle a beaucoup perdu. Elle ne sait pas encore que c'est pour tout gagner. Telle est la nuit obscure dont les grands mystiques ont parlé, et qui est peut-être ce qu'il y a de plus significatif, en tout cas de plus instructif, dans le mysticisme chrétien. La phase définitive, caractéristique du grand mysticisme, se prépare. Analyser cette préparation finale est impossible, les mystiques eux-mêmes en ayant à peine entrevu le mécanisme. Bornons-nous à dire qu'une machine d'un acier formidablement résistant, construite en vue d'un effort extraordinaire, se trouverait sans doute dans un état analogue si elle prenait conscience d'elle-même au moment du montage. Ces pièces, étant soumises une à une aux plus dures épreuves, certaines étant rejetées et remplacées par d'autres, elle aurait le sentiment d'un manque, ça et là, et d'une douleur partout. Mais cette peine toute superficielle n'aurait qu'à s'approfondir pour venir se perdre dans l'attente et l'espoir d'un instrument merveilleux. L'âme mystique veut être cet instrument. Elle élimine de sa substance tout ce qui n'est pas assez pur, assez résistant et souple pour que Dieu l'utilise. Déjà, elle sentait Dieu présent. Déjà, elle croyait l'apercevoir dans des visions symboliques. Déjà même, elle s'unissait à lui dans l'extase. Mais rien de tout cela n'était durable, parce que tout cela n'était que contemplation. L'action ramenait l'âme à elle-même et la détachait ainsi de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui agit par elle, en elle. L'union est totale et par conséquent définitive. Alors, des mots tels que « mécanisme » et « instrument » évoquent des images qu'il faudra mieux laisser de côté. On pouvait s'en servir pour nous donner une idée du travail de préparation. On ne nous apprendra rien, par là, du résultat final. Disons que c'est désormais, pour l'âme, une surabondance de vie. C'est un immense élan, c'est une poussée irrésistible qui la jette dans les plus vastes entreprises. Une exaltation calme de toutes ses facultés fait qu'elle voit grand, et si faible soit-elle, réalise puissamment. Surtout, elle voit simple, et cette simplicité, qui frappe aussi bien dans ses paroles et dans sa conduite, la guide à travers des complications qu'elle semble ne même pas apercevoir. Une science innée, ou plutôt une innocence acquise, lui suggère ainsi, du premier coup, la démarche utile, l'acte décisif, le mot sans réplique. L'effort reste pourtant indispensable, et aussi l'endurance et la persévérance. Mais ils viennent tout seuls. Ils se déploient d'eux-mêmes dans une âme à la fois agissante et agie, dont la liberté coïncide avec l'activité divine. Il représente une énorme dépense d'énergie, mais cette énergie est fournie en même temps que requise, car la surabondance de vitalité qu'elle réclame coule d'une source qui est celle-même de la vie. Maintenant, les visions sont loin. La divinité ne saurait se manifester du dehors à une âme désormais remplie d'elle. Plus rien qui paraisse distinguer essentiellement un tel homme des hommes parmi lesquels il circule. Lui seul se rend compte d'un changement qui l'élève au rang des adjutores Dei, patient par rapport à Dieu, agent par rapport aux hommes. De cette élévation, il ne tire d'ailleurs nul orgueil. Grande est au contraire son humilité. Comment ne serait-il pas humble alors qu'il a pu constater, dans des entretiens silencieux, seul à seul, avec une émotion où son âme se sentait fondre tout entière, ce qu'on pourrait appeler l'humilité divine? Déjà, dans le mysticisme qui s'arrêtait à l'extase, c'est-à-dire à la contemplation, une certaine action était préformée. On éprouvait, à peine redescendu du ciel sur la terre, le besoin d'aller enseigner les hommes. Il fallait annoncer à tous que le monde perçu par les yeux du corps est sans doute réel, mais qu'il y a autre chose, et que ce n'est pas simplement possible ou probable, comme le serait la conclusion d'un raisonnement, mais certain, comme une expérience. Quelqu'un a vu, quelqu'un a touché, quelqu'un sait. Toutefois, il n'y avait là qu'une velléité d'apostolat. L'entreprise était en effet décourageante. La conviction qu'on tient d'une expérience, comment la propager par des discours? Et surtout, comment exprimer l'inexprimable? Mais ces questions ne se posent même pas au grand mystique. Il a senti la vérité couler en lui de sa source comme une force agissante. Il ne s'empêcherait pas plus de la répandre que le soleil de déverser sa lumière. Seulement, ce n'est plus par de simples discours qu'il la propagera. Car l'amour qui le consume n'est plus simplement l'amour d'un homme pour Dieu, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. À travers Dieu, par Dieu, il aime toute l'humanité d'un divin amour. Ce n'est pas la fraternité que les philosophes ont recommandée au nom de la raison, en arguant de ce que tous les hommes participent originellement d'une même essence raisonnable. Devant un idéal aussi noble, on s'inclinera avec respect. On s'efforcera de le réaliser s'il n'est pas trop gênant pour l'individu et pour la communauté. On ne s'y attachera pas avec passion. Ou bien alors, ce sera qu'on aura respiré dans quelques coins de notre civilisation le parfum enivrant que le mysticisme y a laissé. Les philosophes eux-mêmes auraient-ils posé avec une telle assurance le principe, si peu conforme à l'expérience courante, de l'égale participation de tous les hommes à une essence supérieure, s'ils ne s'étaient pas trouvés des mystiques pour embrasser l'humanité entière dans un seul amour? Il ne s'agit donc pas ici de la fraternité dont on a construit l'idée pour en faire un idéal. Et il ne s'agit pas non plus de l'intensification d'une sympathie innée de l'homme pour l'homme. D'un tel instinct, on peut d'ailleurs se demander s'il n'a jamais existé ailleurs que dans l'imagination des philosophes, où il a surgi pour des raisons de symétrie. Famille, patrie, humanité, apparaissant comme des cercles de plus en plus larges, on a pensé que l'homme devait aimer naturellement l'humanité comme on aime sa patrie et sa famille, alors qu'en réalité, le groupement familial et le groupement social sont les seuls qui aient été voulus par la nature, les seuls auxquels correspondent des instincts, et que les instincts sociaux porteraient les sociétés à lutter les unes contre les autres bien plutôt qu'à s'unir pour se constituer effectivement en humanité. Tout au plus, le sentiment familial et social pourra-t-il surabonder accidentellement et s'employer au-delà de ses frontières naturelles par luxe ou par jeu? Cela n'ira jamais très loin. Bien différent est l'amour mystique de l'humanité. Il ne prolonge pas un instinct, il ne dérive pas d'une idée. Ce n'est ni du sensible ni du rationnel. C'est l'un et l'autre implicitement. Et c'est beaucoup plus effectivement. Car un tel amour est à la racine même de la sensibilité et de la raison, comme du reste des choses. Coïncidant avec l'amour de Dieu pour son œuvre, amour qui a tout fait, il livrerait à qui saurait l'interroger le secret de la création. Il est d'essence métaphysique encore plus que morale. Il voudrait, avec l'aide de Dieu, parachever la création de l'espèce humaine et faire de l'humanité ce qu'elle eût été tout de suite si elle avait pu se constituer définitivement sans l'aide de l'homme lui-même. Ou, pour employer des mots qui disent, comme nous le verrons, la même chose dans une autre langue, sa direction est celle même de l'élan de vie. Il est cet élan même communiqué intégralement à des hommes privilégiés qui voudraient l'imprimer alors à l'humanité entière et par une contradiction réalisée, convertir en effort créateur cette chose créée qu'est une espèce, faire un mouvement de ce qui est par définition un arrêt. Réussira-t-il ? Si le mysticisme doit transformer l'humanité, ce ne pourra être qu'en transmettant de proche en proche, lentement, une partie de lui-même. Les mystiques le sentent bien. Le grand obstacle qu'ils rencontreront est celui qui a empêché la création d'une humanité divine. L'homme doit gagner son pain à la sueur de son front. En d'autres termes, l'humanité est une espèce animale, soumise comme telle à la loi qui régit le monde animal et qui condamne le vivant à se repaître du vivant. Sa nourriture lui étant alors disputée, et par la nature en général et par ses congénères, il emploie nécessairement son effort à se la procurer. Son intelligence est justement faite pour lui fournir des armes et des outils en vue de cette lutte et de ce travail. Comment, dans ces conditions, l'humanité tournerait-elle vers le ciel une attention essentiellement fixée sur la terre? Si c'est possible, ce ne pourra être que par l'emploi simultané ou successif de deux méthodes très différentes. La première consisterait à intensifier si bien le travail intellectuel, à porter l'intelligence si loin au-delà de ce que la nature avait voulu pour elle, que le simple outil céda la place à un immense système de machines capables de libérer l'activité humaine, cette libération étant d'ailleurs consolidée par une organisation politique et sociale qui assura au machinisme sa véritable destination. Moyen dangereux, car la mécanique en ce développement pourra se retourner contre la mystique. Même, c'est en réaction apparente contre celle-ci que la mécanique se développera le plus complètement. Mais il y a des risques qu'il faut courir. Une activité d'ordre supérieur, qui a besoin d'une activité plus basse, devra la susciter ou en tout cas la laisser faire, quitte à se défendre s'il en est besoin. L'expérience montre que si, de deux tendances contraires mais complémentaires, l'une a grandi au point de vouloir prendre toute la place, l'autre s'en trouvera bien, pour peu qu'elle ait su se conserver, son tour viendra, et elle bénéficiera alors de tout ce qui a été fait sans elle, qui n'a même été vigoureusement mené que contre elle. Quoi qu'il en soit, ce moyen ne pouvait être utilisé que beaucoup plus tard, et il y avait en attendant une toute autre méthode à suivre. C'était de ne pas rêver pour l'élan mystique une propagation générale immédiate, évidemment impossible, mais de le communiquer, encore que déjà affaibli, à un petit nombre de privilégiés qui formeraient ensemble une société spirituelle. Les sociétés de ce genre pourraient essaimer, chacune d'elles, par ceux de ses membres qui seraient exceptionnellement doués, donneraient naissance à une ou plusieurs autres. Ainsi se continuerait l'élan jusqu'au jour où un changement profond des conditions matérielles imposées à l'humanité par la nature permettrait, du côté spirituel, une transformation radicale. Telle est la méthode que les grands mystiques ont suivie. C'est par nécessité et parce qu'ils ne pouvaient pas faire davantage qu'ils dépensèrent surtout à fonder des couvents ou des ordres religieux, leur énergie surabondante. Ils n'avaient pas à regarder plus loin pour le moment. L'élan d'amour qui les portait à élever l'humanité jusqu'à Dieu et à parfaire la création divine ne pouvait aboutir à leurs yeux qu'avec l'aide de Dieu dont ils étaient les instruments. Tout leur effort devait donc se concentrer sur une tâche très grande, très difficile, mais limitée. D'autres efforts viendraient, D'autres étaient d'ailleurs déjà venus. Tous seraient convergents, puisque Dieu en faisait l'unité. Nous avons en effet beaucoup simplifié les choses. Pour plus de clarté et surtout pour serrer les difficultés, nous avons raisonné comme si le mystique chrétien, porteur d'une révélation intérieure, survenait dans une humanité qui ne connaîtrait rien d'elle. Par le fait, les hommes auxquels il s'adresse ont déjà une religion, qui était d'ailleurs la sienne. S'il avait des visions, elle lui présenterait en images ce que sa religion lui avait inculqué sous forme d'idées. S'il avait des extases, elle l'unissait à un dieu qui dépassait sans doute tout ce qu'il avait imaginé, mais qui répondait encore à la description abstraite que la religion lui avait fournie. On pourrait même se demander si ces enseignements abstraits ne sont pas à l'origine du mysticisme, et si celui-ci a jamais fait autre chose que repasser sur la lettre du dogme pour le tracer cette fois en caractère de feu. Le rôle des mystiques serait alors seulement d'apporter à la religion, pour la réchauffer, quelque chose de l'ardeur qui les anime. Et certes, celui qui professe une telle opinion n'aura pas de peine à la faire accepter. Les enseignements de la religion s'adressent en effet, comme tout enseignement, à l'intelligence, et ce qui est d'ordre intellectuel peut devenir accessible à tous. Qu'on adhère ou non à la religion, on arrivera toujours à se l'assimiler intellectuellement, quitte à se représenter comme mystérieux ses mystères. Au contraire, le mysticisme ne dit rien, absolument rien, à celui qui n'en a pas éprouvé quelque chose. Tout le monde pourra donc comprendre que le mysticisme vienne de loin en loin s'insérer, original et ineffable, dans une religion préexistante, formulée en termes d'intelligence, tandis qu'il sera difficile de faire admettre l'idée d'une religion qui n'existerait que par le mysticisme, dont elle serait un extrait intellectuellement formulable et par conséquent généralisable. Nous n'avons pas à rechercher quelle est celle de ces interprétations qui est conforme à l'orthodoxie religieuse. Disons seulement que, du point de vue du psychologue, la seconde est beaucoup plus vraisemblable que la première. D'une doctrine qui n'est que doctrine, sortira difficilement l'enthousiasme ardent, l'illumination, la foi qui soulève les montagnes. Mais poser cette incandescence, la matière en ébullition, se coulera sans peine dans le moule d'une doctrine, ou deviendra même cette doctrine en se solidifiant. Nous nous représentons donc la religion comme la cristallisation, opérée par un refroidissement savant, de ce que le mysticisme vient déposer, brûlant dans l'âme de l'humanité. Par elle, tous peuvent obtenir un peu de ce que possédèrent pleinement quelques privilégiés. Il est vrai qu'elle a dû accepter beaucoup de choses pour se faire accepter elle-même. L'humanité ne comprend bien le nouveau que s'il prend la suite de l'ancien. Or, l'ancien était d'une part ce que les philosophes grecs avaient construit et d'autre part ce que les religions antiques avaient imaginé. Que le christianisme ait beaucoup reçu ou plutôt beaucoup tiré des uns et des autres, cela n'est pas douteux. Il est chargé de philosophie grecque, et il a conservé bien des rites, des cérémonies, des croyances même de la religion que nous appelions statiques ou naturelles. C'était son intérêt, car son adoption partielle du néoplatonisme aristotélicien lui permettait de rallier à lui la pensée philosophique et ses emprunts aux anciennes religions devaient aider une religion nouvelle, de direction opposée, n'ayant guère de commun avec celle d'autrefois que le nom, à devenir populaire. Mais rien de tout cela n'était essentiel. L'essence de la nouvelle religion devait être la diffusion du mysticisme. Il y a une vulgarisation noble qui respecte les contours de la vérité scientifique et qui permet à des esprits simplement cultivés de se la représenter en gros jusqu'au jour où un effort supérieur leur en découvrira le détail et surtout leur en fera pénétrer profondément la signification. Du même genre, nous paraît être la propagation de la mysticité par la religion. En ce sens, la religion est au mysticisme ce que la vulgarisation est à la science. Ce que le mystique trouve devant lui est donc une humanité qui a été préparée à l'entendre par d'autres mystiques, invisibles et présents dans la religion qui s'enseigne. De cette religion, son mysticisme même est d'ailleurs imprégné, puisqu'il a commencé par elle. Sa théologie sera généralement conforme à celle des théologiens. Son intelligence et son imagination utiliseront pour exprimer en mots ce qu'il éprouve et en images matérielles ce qu'il voit spirituellement, l'enseignement des théologiens. Et cela lui sera facile, puisque la théologie a précisément capté un courant qui a sa source dans la mysticité. Ainsi, son mysticisme bénéficie de la religion en attendant que la religion s'enrichisse de son mysticisme. Par là, s'explique le rôle qu'il se sent appelé à jouer d'abord, celui d'un intensificateur de la foi religieuse. Il va au plus pressé. En réalité, il s'agit, pour les grands mystiques, de transformer radicalement l'humanité en commençant par donner l'exemple. Le but ne serait atteint que s'il y avait finalement ce qui aurait dû théoriquement exister à l'origine, une humanité divine. Mysticisme et christianisme se conditionnent donc l'un l'autre indéfiniment. Il faut pourtant bien qu'il y ait eu un commencement. Par le fait, à l'origine du christianisme, il y a le Christ. Du point de vue où nous nous plaçons, et d'où apparaît la divinité de tous les hommes, il importe peu que le Christ s'appelle ou ne s'appelle pas un homme. Il n'importe même pas qu'il s'appelle le Christ. Ceux qui sont allés jusqu'à nier l'existence de Jésus n'empêcheront pas le sermon sur la montagne de figurer dans l'Évangile, avec d'autres divines paroles. À l'auteur, on donnera le nom qu'on voudra, on ne fera pas qu'il n'y ait pas eu d'auteur. Nous n'avons donc pas à nous poser ici de tels problèmes. Disons simplement que si les grands mystiques sont bien tels que nous les avons décrits, ils se trouvent être des imitateurs et des continuateurs originaux, mais incomplets, de ce que fut complètement le Christ des Évangiles. Lui-même peut être considéré comme le continuateur des prophètes d'Israël. Il n'est pas douteux que le christianisme ait été une transformation profonde du judaïsme. On l'a dit bien des fois, à une religion qui était encore essentiellement nationale, se substitua une religion capable de devenir universelle. À un Dieu qui tranchait sans doute sur tous les autres par sa justice en même temps que par sa puissance, mais dont la puissance s'exerçait en faveur de son peuple et dont la justice concernait avant tout ses sujets, succéda un Dieu d'amour et qui aimait l'humanité entière. C'est précisément pourquoi nous hésitons à classer les prophètes juifs parmi les mystiques de l'Antiquité. Yahvé était un juge trop sévère. Entre Israël et son Dieu, il n'y avait pas assez d'intimité pour que le judaïsme fût le mysticisme que nous définissons. Et pourtant, aucun courant de pensée ou de sentiment n'a contribué autant que le prophétisme juif a suscité le mysticisme que nous appelons complet, celui des mystiques chrétiens. La raison en est que si d'autres courants portèrent certaines âmes à un mysticisme contemplatif et méritèrent par là d'être tenues pour mystiques. C'est à la contemplation pure qu'ils aboutirent. Pour franchir l'intervalle entre la pensée et l'action, il fallait un élan qui manqua. Nous trouvons cet élan chez les prophètes. Ils eurent la passion de la justice. Ils la réclamèrent au nom du Dieu d'Israël. Et le christianisme, qui prit la suite du judaïsme, dut en grande partie aux prophètes juifs d'avoir un mysticisme agissant, capable de marcher à la conquête du monde. Si le mysticisme est bien ce que nous venons de dire, il doit fournir le moyen d'aborder en quelque sorte, expérimentalement, le problème de l'existence et de la nature de Dieu. Nous ne voyons pas d'ailleurs comment la philosophie l'aborderait autrement. D'une manière générale, nous estimons qu'un objet qui existe est un objet qui est perçu ou qui pourrait l'être. Il est donc donné dans une expérience réelle ou possible. Libre à vous de construire l'idée d'un objet ou d'un être comme fait le géomètre pour une figure géométrique. Mais l'expérience seule établira qu'il existe effectivement en dehors de l'idée ainsi construite. Direz-vous que toute la question est là et qu'il s'agit précisément de savoir si un certain être ne se distinguerait pas de tous les autres en ce qu'il serait inaccessible à notre expérience et pourtant aussi réel qu'eux. Je l'admets un instant, encore qu'une affirmation de ce genre et les raisonnements qu'on y joint me paraissent impliquer une illusion fondamentale. Mais il restera à établir que l'être, ainsi défini, ainsi démontré, est bien Dieu. Alléguerez-vous qu'il l'est par définition, et qu'on est libre de donner aux mots qu'on définit le sens qu'on veut, je l'admets encore. Mais si vous attribuez aux mots un sens radicalement différent de celui qu'il a d'ordinaire, c'est à un objet nouveau qu'il s'applique. Vos raisonnements ne concerneront plus l'ancien objet. Il sera donc entendu que vous nous parlez d'autre chose. Tel est précisément le cas, en général, quand la philosophie parle de Dieu. Il s'agit si peu du Dieu auquel pensent la plupart des hommes que si par miracle et contre l'avis des philosophes, Dieu ainsi défini descendait dans le champ de l'expérience, personne ne le reconnaîtrait. Statique ou dynamique, en effet, la religion tient avant tout pour un être qui peut entrer en rapport avec nous. Or, c'est précisément de quoi est incapable le Dieu d'Aristote, adopté avec quelques modifications par la plupart de ses successeurs. Sans entrer ici dans un examen approfondi de la conception aristotélicienne de la divinité, disons simplement qu'elle nous paraît soulever une double question. Premièrement, pourquoi Aristote a-t-il posé comme premier principe un moteur immobile, pensée qui se pense elle-même, enfermée en elle-même et qui n'agit que par l'attrait de sa perfection? Deuxièmement, pourquoi, ayant posé ce principe, l'a-t-il appelé Dieu? Mais à l'une et à l'autre, la réponse est facile. La théorie platonicienne des idées a dominé toute la pensée antique, en attendant qu'elle pénétrât dans la philosophie moderne. Or, le rapport du premier principe d'Aristote au monde est celui même que Platon établit entre l'idée et la chose. Pour qui ne voit dans les idées que des produits de l'intelligence sociale et individuelle, il n'y a rien d'étonnant à ce que des idées en nombre déterminé, immuables, correspondent aux choses indéfiniment variées et changeantes de notre expérience. Nous nous arrangeons en effet pour trouver des ressemblances entre les choses malgré leur diversité et pour prendre sur elles des vues stables malgré leur instabilité. Nous obtenons ainsi des idées sur lesquelles nous avons prise tandis que les choses nous glissent entre les mains. Tout cela est de fabrication humaine. Mais celui qui vient philosopher quand la société a déjà poussé fort loin son travail et qui en trouve les résultats emmagasinés dans le langage, peut être frappé d'admiration pour ce système d'idées sur lesquelles les choses semblent se régler. Ne seraient-elles pas, dans leur immutabilité, des modèles que les choses changeantes et mouvantes se bornent à imiter? Ne serait-elle pas la réalité vraie, et le changement et le mouvement ne traduiraient-ils pas l'incessante et inutile tentative de choses quasi inexistantes? Courant, en quelque sorte, après elle-même, pour coïncider avec l'immutabilité de l'idée. On comprend donc qu'ayant mis au-dessus du monde sensible une hiérarchie d'idées, dominée par cette idée des idées qu'est l'idée du bien, Platon est jugé que les idées en général, et à plus forte raison le bien, agissaient par l'attrait de leur perfection. Tel est précisément, d'après Aristote, le mode d'action de la pensée, laquelle n'est pas sans rapport avec l'idée des idées. Il est vrai que Platon n'identifiait pas celle-ci avec Dieu. Le démiurge du Timée qui organise le monde est distinct de l'idée du bien. Mais le Timée est un dialogue mythique. Le démiurge n'a donc qu'une demi-existence. Et Aristote, qui renonce au mythe, fait coïncider avec la divinité une pensée qui est à peine, semble-t-il, un être pensant, que nous appellerions plutôt idée que pensée. Par là, le dieu d'Aristote n'a rien de commun avec ceux qu'adoraient les Grecs. Il ne ressemble guère davantage au dieu de la Bible, de l'Évangile. Statique ou dynamique, la religion présente à la philosophie un dieu qui soulève de tout autre problème. Pourtant, c'est à celui-là que la métaphysique s'est attachée généralement, quitte à le parer de tel ou tel attribut incompatible avec son essence. Que ne l'a-t-elle pris à son origine? Elle l'eût vu se former par la compression de toutes les idées en une seule. Que n'a-t-elle considéré ses idées à leur tour? Elle eût vu qu'elles servent avant tout à préparer l'action de l'individu et de la société sur les choses, que la société les fournit pour cela à l'individu, et qu'ériger leur quintessence en divinité consiste tout simplement à diviniser le social. Que n'a-t-elle analysé enfin les conditions sociales de cette action individuelle et la nature du travail que l'individu accomplit avec l'aide de la société? Elle eut constaté que si, pour simplifier le travail et aussi pour faciliter la coopération, on commence par réduire les choses à un petit nombre de catégories d'idées, traduisibles en mots, chacune de ces idées représente une propriété ou un état stable cueilli le long d'un devenir. Le réel est mouvant, ou plutôt mouvement, et nous ne percevons que des continuités de changement. Mais pour agir sur le réel, et en particulier pour mener à bien le travail de fabrication, qui est l'objet propre de l'intelligence humaine, nous devons fixer par la pensée des stations. De même que nous attendons quelques instants de ralentissement ou d'arrêt relatif pour tirer sur un but mobile. Mais ces repos, qui ne sont que des accidents du mouvement et qui se réduisent d'ailleurs à de pures apparences, ces qualités, qui ne sont que des instantanés pris sur le changement, deviennent à nos yeux le réel et l'essentiel, justement parce qu'ils sont ce qui intéresse notre action sur les choses. Le repos devient ainsi pour nous antérieur et supérieur au mouvement, lequel ne serait qu'une agitation en vue de l'atteindre. L'immutabilité serait ainsi au-dessus de la mutabilité, laquelle ne serait qu'une déficience, un manque, une recherche de la forme définitive. Bien plus, c'est par cet écart entre le point où la chose est et celui où elle devrait, où elle voudrait être, que se définira, et même se mesurera le mouvement et le changement. La durée devient par là une dégradation de l'être, le temps, une privation d'éternité. C'est toute cette métaphysique qui est impliquée dans la conception aristotélicienne de la divinité. Elle consiste à diviniser et le travail social qui est préparatoire du langage et le travail individuel de fabrication qui exige des patrons ou des modèles. L'eidos, idée ou forme, est ce qui correspond à ce double travail. L'idée des idées ou pensée de la pensée se trouve donc être la divinité même. Quand on a ainsi reconstitué l'origine et la signification du dieu d'Aristote, on se demande comment les modernes traitent de l'existence et de la nature de Dieu en s'embarrassant de problèmes insolubles qui ne se posent que si l'on envisage Dieu du point de vue aristotélique et si l'on consent à appeler de ce nom un être que les hommes n'ont jamais songé à invoquer.